Les podcasts des éditions John Libé présentent la série Good Morning Hémato, une série de podcasts consacrés à l'actualité congrès et à la pratique métier de l'hématologue. Ces podcasts sont réalisés avec le soutien institutionnel du laboratoire Jazz Pharmaceuticals. Dans ce podcast, le docteur Maël Yeblig, hématologue au sein des Hospices Civils de Lyon, et le docteur Thomas Ouezo, hématologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny, font le point sur les enseignements à tirer de la crise Covid.
Je suis Maël Yeblig, je suis actuellement chef de clinique au sein des Hospices Civils de Lyon. Et j'exerce dans une unité où sont pris en charge des leucémies aiguës et sont réalisées des greffes de cellules souches hématopoïétiques.
Je m'appelle Thomas Ouezo, je suis chef de clinique dans le service d'hématologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny et ancien chef de clinique à Gustave Roussy. Je m'occupe plus particulièrement du programme lymphoïde et des carticelles.
Moi, à l'époque, j'étais rattaché à l'hôpital de jour, hein, qui est une grosse structure avec une cinquantaine de passages par jour, sans compter les accompagnants. Et donc, compte tenu de ce bouillon de culture, il était fondamental, urgent, de définir un parcours patient afin d'éviter le plus possible les contaminations nosocomiales. En plus, à l'époque, on n'avait quasiment rien comme données, tant sur le plan de l'infection chez les sujets humains, mais bien évidemment, encore moins chez les patients atteints d'hémopathie. Et alors, dans ce contexte, j'ai essayé de créer un arbre décisionnel, procédural, pour que les différents intervenants du parcours patient sachent ce qu'il fallait faire, que ça aille de l'aide-soignante au médecin. L'idée, c'était de filtrer au mieux les patients qui sont plus susceptibles d'être infectés, de les mettre dans un endroit dédié, le temps que le test PCR soit réalisé à l'écart, en tout cas, des plus fragiles.
Contrairement à toi, tu n'étais pas impliqué dans cette organisation initiale extrêmement fastidieuse des premiers services Covid. Et nous étions un petit peu en seconde ligne par rapport aux hôpitaux de la PHP, à Gustave Roussy. Et ce n'est que finalement, en février 2020, qu'on a vu arriver les premiers patients d'hémato. Alors, très, très tôt, les oncologues ont constaté que les patients d'hématologie avaient de grandes singularités, avec des traitements immunosuppresseurs assez lourds et une évolution de la maladie souvent assez fatale, malheureusement. Et donc, très vite, la direction du centre avait demandé aux hématologues de réquisitionner spécifiquement un jeune hématologue. Et donc, je suis arrivé dans les services Covid au tout début de la première vague. Alors, après la logistique, il a bien fallu gérer les patients et rentrer dans le vif du sujet. Et comme tu le sais, et comme on s'en souvient tous, les malades étaient initialement très graves. Il ne restait que quelques heures, quelques jours, voire quelques heures en salle avant d'être admis en réanimation dans des états de détresse respiratoire aiguë le plus souvent. Alors, les premiers traitements qu'on a tous utilisés, comme l'hydroxychloroquine, les antiviraux, les anti-JAK2, étaient somme toute assez décevants et les essais cliniques l'ont confirmé. Il faut vraiment attendre la dexaméthasone pour les patients oxygéno-récurrents pour voir un réel bénéfice prouvé dans un essai randomisé chez les patients COVID-19 avec une oxygéno-récurrence. Alors, la première vague passée, les salles COVID se sont peu à peu vidées et puis les médecins ont repris leur activité. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu arriver, donc, en mai 2020, quelques malades qui semblent être atteint du Covid depuis plusieurs semaines, avec des symptômes plus légers, une persistance de la toux, une dyspnée et une PCR Covid positive. Alors, c'était essentiellement des patients atteints d'hémopathie B, traités par rituximab associé à la polychimiothérapie, qui étaient traités depuis plusieurs mois pour ces maladies-là. Alors, les sérologies à l'époque n'étaient pas encore au point, on ne savait pas mesurer la réponse humorale au virus, les anticorps circulants spécifiques du virus, mais très vite, en faisant des phénotypes lymphocytaires dans le sang ou des électrophorèses des protéines sériques, on s'est rendu compte que ces patients-là avaient zéro lymphocyte B circulant et donc fatalement aucun anticorps spécifique du virus et étaient incapables de monter une réponse humorale contre le virus qui s'était peu à peu chronicisé chez ces patients. Comme la plupart des traitements, le plasma convalescent n'avait pas montré d'effet bénéfique dans la population générale atteinte par le COVID-19. Cependant, le transfert passif d'anticorps spécifiques d'un malade guéri à un patient d'hématologie, c'est le principe même de transfert passif d'anticorps, cette approche semble tout indiquer chez les patients incapables de monter une réponse humorale. Donc, avec le professeur Karine Lacombe et son équipe à Saint-Antoine, on a commencé à réaliser, après discussion des premiers cas de malades, des transfusions de plasma convalescent dans ces indications. Certains effets ont été remarquables avec des malades qui se sont transformés en 48 heures et on a commencé à généraliser cette pratique qui s'est organisée autour de RCP initialement en Île-de-France, avec le soutien de l'EFS, qui permettait de délivrer des plasmas convalescents de manière très rapide. Puis cette approche par transfert passif d'anticorps, ben, c'est sophistiqué, hein, comme on le sait tous, avec l'arrivée des anticorps monoclonaux, qui n'est plus une approche polyclonale, mais monoclonale, avec de fortes charges d'anticorps dirigées contre une protéine du virus. Et ce sont bien entendu les patients d'hématologie qui en ont largement bénéficié et qui restent encore aujourd'hui la première cible de ces traitements. L'ultime arme reste bien entendu la vaccination, qui est arrivée dans un second temps, qui a transformé le cours de la pandémie, mais qui n'est pas toujours optimale, comme on peut s'en douter, chez les patients immunodéprimés qui n'ont déjà pas la possibilité de monter une réponse humorale.
Je suis bien d'accord, hein. La vaccination, ça reste quand même l'arme majeure. Mais quand la vaccination a commencé, je me suis posé pas mal de questions quand même à cet égard. Déjà, c'était quels étaient les patients atteints d'hémopathie les plus à risque, hein, et susceptibles de bénéficier le plus finalement d'une procédure vaccinale. Est-ce que les patients atteints d'hémopathie sont autant à risque que les patients atteints de cancer solide, notamment en termes de mortalité? Et enfin, est-ce que tous les patients atteints d'hémopathie répondent de la même manière à la vaccination? Donc, concernant la première question, globalement, les patients atteints d'hémopathie aiguë, particulièrement des leucémies aiguës et des myélomes multiples, étaient ceux qui étaient quand même les plus à risque. Pour ce qui est de la deuxième question, cancer solide versus hémopathie, sur une petite cohorte d'une centaine de patients, le risque de décès précoce est a priori plus élevé chez les patients cancéreux, alors que le risque d'intubation, le nombre de jours sous oxygène, la durée de séjour en soins intensifs et la durée d'hospice étaient, eux, réduits. Les principaux facteurs associés au décès précoce chez les patients cancéreux, c'était la gravité de la présentation de l'infection Covid et le nombre de lignes de chimiothérapie qu'ils avaient reçues précédemment. Donc, en gros, il ne semblait pas y avoir vraiment de différence en termes de mortalité entre les patients atteints de cancer solide ou d'hémopathie. Alors, avant l'arrivée de la vaccination, un certain nombre d'hémopathies semblaient être plus notables, plus à risque, plus particulièrement la LAM. Ce qui nous concerne à l'échelle de notre centre, la mortalité des premières vagues, notamment avec le variant Delta, était de 38% pour les patients en cours d'un traitement pour une LAM, ce qui correspond globalement à ce qui avait été rapporté dans la littérature. Et pour les patients allogreffés, en fait, on a eu que très peu de cas finalement sur notre centre, mais néanmoins les dernières rapportées dans la littérature étaient aux alentours des 31% avant du coup la vaccination. Donc toutes ces données, elles sont issues d'une étude qui s'appelle EPICOVIDEA, qui a été mise à jour récemment et qui très clairement montre une réduction de la mortalité aux alentours des 10% pour ceux qui ont reçu du coup une vaccination. Alors ces résultats qui sont plutôt bons, mais qui restent relativement élevés, sont probablement expliqués d'ailleurs par le fait que les patients atteints d'hémopathie peut-être répondent moins bien que la population générale à la vaccination. Donc, ça soulève une question finalement entre la dichotomie, entre la réponse humorale et la réponse T. Est-ce qu'on peut se baser uniquement sur la notion de réponse humorale et que quelque part, est-ce que les cellules T ne sont pas susceptibles finalement de participer à la protection contre le Covid-19, même en l'absence d'une réponse humorale post-vaccinale, et notamment au cours des premières années post-transplantation chez les patients qui ont reçu une ALOA. Et donc, tout ça a été documenté dans une étude rapportée par Maillard et collègues à l'ASH 2021, où ils ont globalement montré que les patients traités par infliximab, quelle que soit la raison, présentaient des réponses humorales plus faibles, de l'ordre de 30% comparativement à des groupes témoins. Mais comme tout ne passe pas par la réponse humorale, il était très difficile de conclure quant à l'inefficacité vaccinale, comme elle ne se mesure très clairement pas par un simple type d'anticorps.
Alors, qu'est-ce qu'on fera après la crise? Quel est le pronostic, finalement, à la lumière de tous ces éléments, avec la vaccination, la multiplication des anticorps monoclonaux, puis l'élargissement de l'arsenal thérapeutique, l'arrivée des antiviraux? C'est vrai qu'il y a eu pléthore de traitements, mais malheureusement, tout n'est pas réglé. Et à mon sens, le problème principal réside dans le fait qu'aucun traitement ni aucun vaccin à ce jour ne permet d'empêcher la contamination. Et tant qu'il y aura contamination, il y aura circulation du virus et potentiellement la génération de nouveaux variants. Et ceci pose, à mon sens, un réel problème en hématologie, car un patient infecté est plus vulnérable. Et un patient infecté, il est très difficile de suivre un programme thérapeutique du début jusqu'à la fin s'il s'infecte de manière itérative à X ou Y variants. L'arrivée de ces nouvelles vagues de variants a rendu caduque l'efficacité de la plupart des anticorps monoclonaux disponibles. Et se pose aujourd'hui véritablement la question des bénéfices apportés aux patients et des risques auxquels on expose la population par l'utilisation de ces différents traitements qui, fatalement, accentuent la pression de sélection de ces variants. Alors, en effet, les problèmes d'hier, qui étaient la surmortalité, les réanimations bondées, tous ces problèmes d'hier sont réglés avec une mortalité qui est aujourd'hui bien moindre. Mais les problèmes actuels sont les suivants, c'est-à-dire comment gérer un virus qui mute en permanence, comment gérer des patients porteurs chroniques ou qui se réinfectent au fil de leur traitement. Ce sont là, je pense, les challenges de demain.
Au final, je pense que si on peut retirer trois points clés hein, de tout ça, c'est que bon, cette pandémie hein, a nécessité une adaptation forte des infrastructures de soins et des parcours de patients qui sont suivis en hématologie. Même si la vaccination, d'ailleurs, est moins efficace que dans la population générale en termes de réponse humorale, bah, elle semble apporter très clairement un bénéfice en termes de sévérité des infections chez nos malades. Et enfin, pour finir, bah, son plan curatif, hein, les anticorps monoclonaux et bien évidemment le plasma de convalescent restent des options qui restent particulièrement valables chez ces patients fragiles.
Ne manquez pas nos prochains podcasts sur l'actualité de la leucémie, du myéloïde et de la greffe. Ce programme est soutenu par le laboratoire Jazz Pharmaceuticals. Il est réalisé en toute indépendance et sous la seule responsabilité des auteurs et du directeur de la publication qui sont garants de l'objectivité de l'information délivrée. Ce programme a pour objectif de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche. Les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par la commission d'autorisation de mise sur le marché et dans ce cas ne doivent donc pas être mises en pratique. Le docteur Maël Yeblick déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires AbbVie, Astellas, Blueprint, Celgen, BMS, Insight, Jazz Pharmaceuticals. Le docteur Thomas Wezo déclare n'avoir aucun lien d'intérêt.